My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle très peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur par leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, humilité, avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I'll show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve dans Les Enfants du Nouveau Monde en ce mois d'octobre. Alors le mois d'octobre, c'est le mois où on commence à faire le stock de bois pour l'hiver, où on s'apprête à passer plus de temps chez soi, on se prépare un espace cocoon, on se replie plus à l'intérieur. Et justement, du coup, c'est un bon mois pour sentir si notre maison est un lieu harmonieux pour y vivre et y passer du temps. Et pour répondre à cette question, eh bien, j'ai invité aujourd'hui Pierre-Ange Alfonsi. Bonjour.
Bonjour.
Et alors, Pierre-Ange, vous êtes géobiologue et bioélectricien.
Oui, tout à fait. Enfin, électricien depuis 33 ans et bioélectricien depuis 2002-2004, ouais, où j'ai fait une formation qui nous apprend comment câbler une maison, protéger les maisons des champs électromagnétiques.
Alors aujourd'hui, je vous ai invité chez moi pour qu'on puisse faire une découverte ensemble en faisant le diagnostic de ma maison, tout simplement, et en voyant ce qui est invisible, en fait, en voyant ce qui nous touche, mais qui est invisible, les champs électromagnétiques et pas que.
Oui, tout à fait. On va pouvoir faire en direct les mesures de champs électromagnétiques basse et haute fréquence, mais aussi toute la partie géobiologie du lieu, avec des radmasters, des baguettes, le pendule, on va pouvoir s'amuser un petit peu.
Alors la géobiologie, pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est ?
Alors la géobiologie, on va rechercher tous les rayonnements naturels terrestres, c'est-à-dire les veines d'eau, les failles, les réseaux Hartmann, les réseaux Curie, qui est très néfaste pour l'humain, qui, ayant un rayonnement gamma très important, peut et souvent arrache les électrons des cellules et qui fait que les personnes ont rapidement des problèmes de santé. Donc ça peut commencer avec des problèmes d'insomnie, concentration, migraine, dépression. On a plusieurs cas suivant les personnes.
D'accord, donc les champs électromagnétiques, il y en a qui sont naturels,
oui.
Il y en a qui ne le sont pas, qui sont
artificiels.
Liés à des appareils électriques qu'on peut avoir dans la maison, liés aussi à des rayonnements qui sont extérieurs à la maison.
Oui,
qui
peuvent être les antennes relais, les radars de l'armée, on a beaucoup de choses qui viennent de
l'extérieur. Les lignes haute tension, ce genre de choses.
Voilà, les lignes haute tension, transfo EDF, le voie de chemin de fer. Enfin, on a plein de cas différents, dépend de l'habitation.
Voilà, donc tout ça nous permet de mesurer à quel point notre environnement nous impacte.
Oui.
C'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on n'est pas bien ou malade, etc. On ne pense pas forcément à aller diagnostiquer notre environnement. Et pourtant, c'est d'une grande importance.
Oui, la plupart du temps, les personnes ont recours à leur médecin, hein, ce que je conseille toujours, mais voyant qu'il n'y a pas de solution, ils tapent sur Internet leurs problèmes de santé, migraine, insomnie, concentration ou autre, et ça les envoie vers des sites, vers les champs électromagnétiques naturels ou artificiels.
Et donc, pour en savoir plus, pour faire un diagnostic vraiment précis de notre lieu de vie, la meilleure façon, c'est donc de faire venir un géobiologue et bioélectricien sur notre lieu pour diagnostiquer notre lieu de vie.
Voilà, parce que géobiologue seul, c'est bien, mais on peut passer à côté d'autres choses aussi, les champs électromagnétiques. Bon, il y a des géobiologues qui commencent à se former en mesure de champs électromagnétiques. Hein. Donc c'est bien, déjà, on peut aller beaucoup plus loin. Mais c'est vrai que l'habitat, il y a beaucoup de choses à vérifier, comme je vous disais aussi tout à l'heure, de des mesures de la qualité de l'air de l'habitat aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté dans la prestation d'Auxilium Fréquency Bio, de façon
qui
à
est votre société, hein,
qui est la société
Auxilium Fréquency Bio,
voilà, ouais. Qui existe depuis 4 ans et je fais pas d'électricité normale, hein, je fais que de l'électricité bio. Je vais être crédible dans ce que je fais, je vais pas faire d'un côté des maisons avec des ondes et de l'autre côté en faire sans ondes. Donc si on veut faire appel à moi pour l'électricité normale, je fais pas.
Donc la bioélectricité, c'est l'installation électrique mais qui respecte la vie, hein, bio, voilà. Et qui donc ne dégage pas d'ondes néfastes pour les habitants.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait.
Et bah donc on va commencer. Donc là on est dans mon salon.
Oui.
Par quoi ça commence un diagnostic alors ?
Alors généralement moi je commence déjà par contrôler la terre, voir s'il y a bien une terre. Alors c'est pas la terre extérieure, hein, c'est le dans une installation électrique, il y a trois fils, hein, il y a un neutre, une phase et une terre. Donc on va contrôler qu'il y ait bien une terre avec une résistance de terre respectée, parce que la norme NFC 1500 d'électricité nous recommande 100 ohms, mais nous en bioélectricité on recommande inférieur à 30 ohms.
Oui, ça donc, fait une différence entre voilà. 30 et 100.
Voilà, qui permet d'évacuer plus rapidement les champs électromagnétiques de l'habitat. Et donc je commence par ouvrir le tableau électrique et faire les mesures de résistance de terre et voir un peu la conformité du tableau électrique en même temps.
Très bien, bah, voilà. Allons-y alors.
Ouais. Là, je défais le couvercle. Là, on a bien la bande de terre. Donc, je vais faire une mesure avec un appareil pour vérifier la résistance de terre.
Alors, qu'est-ce que c'est cet appareil ?
C'est un mesureur de boucle de terre.
D'accord.
Qui permet de mesurer la résistance de terre. Donc là, vous êtes pas aux normes. Hein. 135 ohms. Donc vous êtes au-dessus de la norme électrique de la NFC 1500. Donc normalement, c'est inférieur à 100 ohms. Là, on mesure 135,4 ohms. Donc vous êtes pas aux normes. Vous n'avez pas de résistance de terre.
Donc en fait, dans mon habitat, il n'y a pas de prise de terre.
Voilà. Vous avez des prises avec la terre, mais il n'y a pas la terre.
C'est pas connecté au fil, en fait.
C'est bien connecté au fil, parce que vous voyez, on voit bien tous les fils verts jaunes.
Oui.
L'arrivée de terre qui se trouve ici. Mais par contre, l'arrivée de terre n'est pas bonne.
C'est-à-dire qu'elle n'est pas tout simplement connectée à la terre.
Elle est connectée, mais pas à bon endroit. Elle doit être sur une roche où il n'y a pas assez de piquets de terre. Et donc, c'est pas respecté la valeur de la résistance de terre. C'est-à-dire que l'électricien, quand il a fait l'installation, il n'a pas mesuré la résistance de terre.
Alors ça, concrètement, qu'est-ce que ça peut entraîner sur ma santé
Alors, bah, déjà, tous les champs électromagnétiques qui sont chez vous vont rester chez vous. Ils vont pas sortir de l'habitat. Et il y a un danger aussi sur la sécurité des personnes. Vous avez un enfant, donc votre enfant, s'il met quelque chose dans une prise, il peut rester électrocuté, vu qu'il n'y a pas de terre qui peut évacuer... cette différence de potentiel qu'on mesurerait entre lui et la phase.
D'accord. Donc déjà, ça, c'est un gros point négatif.
Ça, c'est un point négatif.
Donc pour répondre à ça, il faut remédier à la situation et s'assurer que la prise de terre aille bien dans un endroit de terre où l'énergie peut s'évacuer.
Tout à fait. Donc là, vous avez une résistance de terre qui est trop élevée, même s'il y a le câblage, mais elle n'est pas bonne.
Pour cette partie-là, le diagnostic est fait.
Ouais. Mauvaise nouvelle, mais ça c'est... voilà. Après, on va passer à la mesure de champ électrique basse fréquence. Alors, je vais expliquer un peu la différence entre les basses et les hautes fréquences.
Oui.
Donc les basses fréquences, c'est tout le réseau 50 Hz, c'est-à-dire le réseau électrique, EDF. Donc ça veut dire tout ce qui est dans l'habitat, mais aussi les lignes haute tension, c'est du 50 Hz. On confond souvent, on pense que c'est de la haute fréquence, mais non, c'est de la basse fréquence. Les voies de chemin de fer, c'est de la basse fréquence. Les transfos EDF, c'est de la basse fréquence. Donc toutes ces choses-là, c'est de la basse fréquence. Après, on a deux champs électriques en basse fréquence. On a le champ électrique et le champ magnétique. Le champ électrique, c'est tout ce qui est les câbles électriques sous tension. Donc une prise de courant, vous l'alimentez, là, on crée un champ électrique. Après, à partir du moment où vous allez brancher quelque chose sur cette prise, on va créer un champ électromagnétique, c'est-à-dire qu'on rajoute du magnétique. Parce que il y a une lampe ou un objet qui est branché, enfin un appareil qui est branché, qui émet un champ magnétique.
D'accord.
Donc voilà la différence entre les deux.
Alors, après ces révisions de la science de l'électricité et avant de passer à la pratique, je vous propose une petite pause musicale et humoristique avec le groupe Les Tzigales et la chanson La Bombe H.
Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans jamais rien avoir appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout.
Pour fabriquer une bonbon, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un calteur, c'est celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe, ce n'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente. C'est que c'est de ma fabrication, non qu'un rayon d'action de 3,50 m. Y'a quelque chose qui cloche là-dedans, madame, bah j'y retourne immédiatement.
Il a bossé pendant des jours, palpant avec amour ses atomes d'hydrogène. Pour se distraire, mère lui mit des pétards sous son lit, mais il sourit à peine. Et puis, un jour qu'il essayait de faire sauter le poulailler, il prit tout en pleine gueule. Alors, couvert de sparadrap, en buvant son tilleul, tonton nous déclara...
En mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, ce n'est plus qu'un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Vlog des mois et d'exanex, que j'accepte d'augmenter la portée de ma bombe. Ah, je me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Y'a quelque chose qui cloche là-dedans, madame. Et j'y retourne immédiatement.
Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cania était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant
« Soyez sages, hein !»
Et quand la bombe a explosé de tous ses personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné devant les jurés, et le voilà qui bafouille.
Ouh, messieurs, c'est un affreux, mais que je jure devant Dieu, en mon âme et conscience. Qu'en détruisant cette tordue, je suis bien convaincu d'avoir servi la France.
On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnestia. Et le pays reconnaissant l'a fait immédiatement. Chef du gouvernement.
Ça va pas? Vous vous sentez tout drôle? Vous vous sentez survolté? Un peu mal à la tête? Un peu électrique? C'est normal, vous écoutez les Tzigales dans Les Enfants du Nouveau Monde. Et puis, pour parler justement d'électricité et puis de cette pollution invisible qui peut nous rendre un peu parfois irritables, voire pire, nous avons avec nous Pierre-Ange Alfonsi, que j'ai invité chez moi et avec qui nous faisons le tour de ma maison pour essayer de détecter ces pollutions invisibles qui peuvent nous rendre irascibles.
Donc là, je vais d'abord mesurer le champ électrique qui s'exprime en volts par mètre.
D'accord.
Donc le petit bip que vous entendez, c'est ce qu'il mesure. Alors lui, c'est un appareil de gigahertz solution qui mesure en 3D, hein, c'est-à-dire qu'il est en train de tourner dans la pièce pour prendre des mesures. Donc la norme, entre guillemets, qu'on préconise en biologie de l'habitat, pour une pièce de vie, c'est 10 volts maxi dans la pièce. Et pour une pièce de nuit, c'est 1 volt. Donc là, on a déjà en ambiant, on a presque 6 volts. Donc après, j'essaie de savoir pourquoi j'ai 6 volts par mètre dans cette pièce. Si déjà on a 6 volts, c'est parce que vous n'avez pas de terre. Donc comme il n'y a pas de terre, il n'y a pas de terre au niveau des lampes, il n'y a pas de terre au niveau des prises. Donc il y a un champ électrique important qui n'est pas évacué.
D'accord.
Donc là, on a cette présence. Après, par exemple, je vais me rapprocher... la lampe de sel. Voilà, une lampe de sel, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas si bon qu'on le croit. Il faut l'éloigner des têtes de lit ou des canapés, parce que ça crée un champ électrique important. Mm-hmm. En plus, là, la plupart du temps, toutes les lampes de sel ont pas de terre. Donc, on peut pas évacuer. Bon, là, il y en aurait une, ça serait pareil, ça marcherait pas. Et, vous voyez, quand je la débranche... Bon, il reste
là,
un petit peu.
On était monté quand même à 38, hein. Ouais. Au 40 même, près de la lampe. Ah oui, c'est impressionnant.
Et là, vous voyez la différence?
Et quand on la rebranche, on monte à 160. Waouh!
Voilà.
Donc en fait, les lampes de sel sont à déconseiller?
C'est à déconseiller, soit prendre des lampes de sel avec un socle qui est relié à la terre, qui est blindé. Et après, je voulais vous montrer l'exemple du sens des lampes. Vous voyez, là, vous avez 130, 150, 160 volts. Je la débranche, ça chute à 30 volts. Et là, je fais ça, je l'inverse.
C'est-à-dire, vous inversez, en fait, la prise.
La prise.
Vous la branchez dans l'autre sens.
Ce qui permet d'en réduire à 60 volts au lieu de 160 volts.
Donc, il y a un sens pour brancher.
Il y a un sens. Pourquoi ? Parce que vous avez un interrupteur ici.
Oui.
Et l'interrupteur, il coupe un fil. Donc, il coupe soit la face, soit le nœud, suivant comment on va mettre le sens de l'affiche. S'il n'est pas mis dans le bon sens, il va couper le nœud et la face va au niveau de la lampe, ce qui crée un champ électrique, ce que vous aviez avant. Donc, après, vous allez me dire, oui, mais il me faut cet appareil. Non, on a une autre solution. On a un petit appareil, ce qu'on appelle un petit testeur de champ. Vous voyez, là,
qui ressemble à un espèce de stylo qu'on dirige vers la lampe.
Si je suis dans le mauvais sens...
Donc, on change le sens de la prise. Voilà. Ah oui, là, il s'allume en rouge et il bip.
Voilà. Donc là, vous savez, ça, c'est un petit appareil qui coûte 15 euros. Donc, c'est pas... celui, il vaut 2500 euros.
Mais oui.
Voilà. Pour les gens qui veulent pouvoir contrôler les lampes de chevet, toutes les lampes dans une maison, on peut les contrôler avec ce type... d'appareil.
Pour savoir tout simplement dans quel sens enfoncer la prise.
Voilà, tout à fait, oui. Parce que ça, on peut pas le savoir. Vous avez une chance sur deux, quoi.
D'accord.
Alors là, quelque chose aussi que je peux vous dire tout de suite par expérience, c'est que vous avez une prise qui est le long du mur à l'autre bout,
oui.
Et vous avez passé une rallonge derrière le canapé.
Oui.
Donc là, vous créez un champ électrique dans tout le canapé.
D'accord.
Donc ça, c'est... Quand vous faites ça, vous n'avez pas de solution, vous pouvez le faire, mais avec une rallonge blindée. Il y a des rallonges qui existent, qui sont blindées, qui ne créent pas de champ électrique. Ce qui fait qu'on peut rallonger une prise de courant sans créer un champ électrique.
D'accord.
Là, actuellement, vous avez un champ électrique dans tout le...
Dans tout le canapé, puisque la rallonge passe derrière le canapé.
Je dois le retrouver, hein, voilà. Vous avez 30 volts dans le canapé, alors que normalement, il faudrait avoir 1 volt. Si je m'éloigne de cette rallonge, vous voyez ?
Effectivement, on tombe à 4,
2... 2 volts, 2, 3 volts. Voilà.
Comment ça s'appelle ce petit stylo là pour
C'est un détecteur de champ électrique. Il va être mis en ligne sur le site internet de habitabiocompatible.com de la société.
Pour se procurer du matériel pour éviter au maximum d'être pollué par des champs électromagnétiques, on peut se rendre donc sur habitabiocompatible.com qui est donc le site sur lequel vous vendez tout ce petit matériel.
Tout à fait, il y a la boutique en ligne. Alors maintenant, on continue les champs électriques au niveau de votre bureau. Donc là, ce que je fais, c'est que je le pose sur le plan de travail. Donc là, par exemple, vous voyez, quand vous travaillez au bureau, vous avez 110 volts par mètre. Donc qui est dû peut-être à cette lampe déjà. Voilà.
Voilà.
Qui n'est pas dans le bon sens.
Une lampe qui est mal branchée.
Qui est mal branchée, donc vous avez un champ électrique en pleine tête. Donc pour travailler, ça ne va pas vous aider. Vous allez avoir des problèmes de concentration, vous pouvez avoir des douleurs au niveau de la tête. Et en plus, vous êtes sur un meuble bois. Il faut savoir que le bois propage les champs électriques.
Ah.
Si vous voulez, vous prenez un câble, vous le dénudez, vous touchez le bois, vous n'allez pas vous prendre de courant en touchant le bois. Par contre, vous prenez une rallonge que vous mettez sur du bois, on va retrouver le même champ électrique à l'autre bout du bois. Il véhicule le champ électrique.
D'accord.
Donc tous les meubles en bois, où il y a des appareils électriques dessus, il faut vraiment faire attention au sens de lampe, aux appareils branchés, éviter que ça touche trop les meubles.
D'accord.
Pour pas qu'il y ait de champ électrique. Parce que là, vous voyez, 110 volts par mètre, c'est trop pour un bureau. Pour un bureau, pour travailler, c'est trop.
Donc si on voulait mettre un socle, par exemple, sous la lampe ou sous l'ordinateur, il faudrait que ce soit un socle en quoi ?
Un socle en dessous, on peut mettre une feutrine.
Là,
ou alors il y a des tissus anti-ondes, hein, qu'on retrouve aussi sur la boutique, je disais tout à l'heure. Hein. Le tissu HNV80, par exemple, c'est un tissu qui fait les basses et les hautes fréquences. Après, ici... Il faut déjà trouver où est votre multiprise. Vous devez avoir une multiprise.
Alors, elle est sous le bureau.
Ouais, elle est sous le bureau.
Donc j'y vais.
Je vais inverser la lampe.
Donc,
déjà.
J'inverse.
Voilà. Déjà, quand vous l'enlevez, vous n'avez plus que 17 volts.
Voilà. Je la branche donc dans l'autre sens. Et on tombe à 17 volts. Ah oui, ça change la donne. Hein, entre 110 et 17.
Et rien que ça, déjà, vous allez voir. Vous allez, pour travailler, vous allez être mieux au niveau de votre bureau. Là, on reprend le petit bip, hein, vous voyez, ça sonne plus. Mm-hmm. Donc, on sait qu'on est dans le bon sens. Après, on a des appareils électriques comme l'ordinateur, qui lui crée un champ électrique. Alors, il existe des cordons de mise à la terre, USB. C'est-à-dire qu'on branche, on se branche avec ce fil sur l'USB de l'ordinateur.
D'accord.
Qu'on relie à la terre. Ce qui fait que tous les champs électromagnétiques de l'ordinateur sont évacués.
Alors là, en l'occurrence, vu que je suis au premier étage et que sur le sol, il y a du lino, comment je fais pour le relier à la terre ?
Non, on le relie à la terre via la prise de courant.
Ah, oui, d'accord.
Et pour vous, chez vous, on ne pourrait pas parce que vous avez
oui,
la terre.
D'accord, ok.
Mais si, quand je suis dans un habitat où la résistance de terre est bonne, la terre est bonne, électrique, hein, la terre électrique, mm-hmm.
on
met un cordon USB sur une multiprise à proximité d'accord. qui permet d'évacuer les champs électriques de l'ordinateur. Et on peut faire pareil sur les imprimantes qui ont une sortie USB.
D'accord.
On la relie aussi en USB à la terre et on évacue les champs électriques à la terre. Après, si vraiment aussi quelque chose que je préconise pour des clients qui travaillent beaucoup au niveau de leur ordinateur, c'est un tapis de sol ou un tapis de bureau de mise à la terre. C'est-à-dire quand vous avez les pieds dessus ou les mains dessus, vous allez vous décharger des champs électromagnétiques. Ce qui fait que tous les champs électromagnétiques dans la pièce ou au niveau du bureau vont pas vous atteindre.
Mais là, moi, vu que j'ai pas de prise terre, ça peut pas fonctionner.
Non.
Puisque ça, c'est un tapis qui est, encore une fois, connecté à la prise terre.
Voilà, c'est pour ça que je commence toujours mes diagnostics avec la résistance de terre.
Oui.
Je dis, voilà, il y a cette solution. Chez vous, on ne peut pas le faire, mm-hmm. sauf si vous refaites votre résistance de terre,
d'accord.
votre terre générale.
Donc, voilà. Donc, avoir une prise de terre, c'est quand même la base.
Voilà. Comme la box. Je vois que vous avez une box.
Oui.
Donc là, vous avez coupé le Wi-Fi.
Oui.
C'est très bien. Mais à créer aussi un champ électrique. Vous voyez ?
Ah oui, quand on s'approche de la box, même sans le Wi-Fi, on est à 220, 230.
Voilà. Donc, vous avez une sortie USB.
Oui.
Bah, cette sortie USB, on la connecte à la terre. Et là,
d'accord.
on redescend à 10.
OK.
Voyez. Donc, voilà. Il y a des solutions pour tous ces appareils. Les champs électriques, on a plein de solutions. Il mm-hmm. n'y a que le champ magnétique, on n'a pas de solution.
D'accord.
Le champ magnétique, ça traverse tout sur des kilomètres. Ça mm-hmm. peut même traverser un mur de béton de 10 mm-hmm. mètres d'épaisseur. Et la seule chose qui arrête le champ magnétique vraiment à 100%, c'est le mu-métal. Le mu-métal, c'est ce qu'on met dans les sous-marins. Pour empêcher de se faire détecter, ils utilisent ce matériau. Mais c'est très cher. Mmh. Et si on le met dans une maison, il faut savoir que les ondes ne sortent plus, qui sont à l'intérieur, ne sortent plus de chez vous. Donc moi, je ne l'installe pas, parce que sinon, ça fait cage de Faraday et on n'a plus rien qui ressort.
De l'électricité au magnétisme, il n'y a qu'un clic. Et c'est le clic-clic de MC Solar dans son album Chapitre 7 sur Radio 16. All right, y'all ready for this, man. Wa-da-da-ding, wa-da-da-ding.
Wa-da-da-ding, wa-da-da-ding. C'est un conte philosophique basé sur des faits historiques. Depuis le Jurassique jusqu'au SMIC, les ascétiques. Pour le pouvoir, le trafic, le sous-sol ou les narcotiques. Certaines personnes utilisent le clic-clic sur toute la terre en Afrique comme dans le sud de l'Amérique. On utilise la même logique même si ça n'est pas démocratique. Quand s'en mêlent les politiques, on met des gamins dans des jeeps qui, sans esprit critique, utilisent le clic-clic. Wadadadeng, wadadadeng.
Pour régler la problème, ils utilisent leur fingue. Wadadadeng, wadadadeng. Pour régler leur problème, ils utilisent leur fingue.
Amour d'une métisse ou par amour de la métiste parfois, ou tu habites pour une insulte dite en public, dans les ghettos, les quartiers chics, pour une simple histoire de fric. Sans aucun scrupule, on utilise le clic-clic. De Munich, sur les côtes du Mozambique, on a établi des listes, une gestion mathématique. Le fascisme et l'esclavagisme ont envoyé au casse-pipe des humains d'un certain type en usant du clic-clic. C'est une question de principe, c'est même une question d'éthique. Car cette fois, ça n'est pas hit, les jeux vidéo, les clips. Ce qu'il faut, c'est que l'on participe en deux mots, former l'équipe pour ne pas rendre glamour l'utilisation du clic-clic.
Wa-da-da-ding, wa-da-da-ding.
Wa-da-da-ding, wa-da-da-ding. C'est
C'est un conte philosophique, c'est aussi une autocritique. J'étais fasciné par les guns tout en restant pacifiste. Voir ce qui se passe dans le monde, cela m'a donné le déclic. Ça commence par la haine et ça finit par clic clic.
Wadadadeng, wadadadeng, pour régler leurs problèmes, ils utilisent leur fangue. Wadadadeng, wadadadeng.
Hey hey, vous êtes toujours à l'écoute des Enfants du Nouveau Monde sur Radio 16. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Pierre-Ange Alfonsi. Il est géobiologue et bioélectricien. Alors, c'est quoi la géobiologie et c'est quoi la bioélectricité ? Eh bien, c'est la question à laquelle on essaye de répondre en faisant un diagnostic de ma maison, puisque je l'ai invité chez moi et que nous faisons donc le tour de toutes les pollutions invisibles, champs électriques, champs magnétiques et autres pollutions invisibles qui ont un impact véritable sur notre santé, alors qu'on n'y pense pas toujours. Bienvenue dans le monde de l'invisible.
Donc là, on va mesurer maintenant le champ magnétique. Donc le champ magnétique qui s'exprime en nanotesla hein, de Nikola Tesla, hein, oui. Qui a découvert le courant alternatif d'ailleurs, et beaucoup de choses.
Et le magnétisme donc.
Et le magnétisme. Donc au niveau d'une pièce de vie, on va jusqu'à 100 nanotesla. Moi, je préconise quand même jusqu'à 50 nanotesla, c'est déjà pas mal.
D'accord.
Donc vous, chez vous, voyez, vous avez rien, vous avez zéro. Donc on n'a pas de problème de champ magnétique. Sachant que si je trouve zéro dans cette pièce, j'aurais trouvé très peu de champ magnétique dans les autres. Vu que ça traverse tout, on aurait déjà une mesure beaucoup plus élevée.
D'accord.
Donc ça sera un lieu qui ne sera pas impacté par les champs magnétiques. C'est déjà une bonne nouvelle, mm-hmm. par rapport à votre Terre qui était une mauvaise nouvelle.
Mm-hmm.
Donc je me déplace quand même dans la pièce pour voir si je ne trouve pas un champ magnétique ailleurs. Hein. Vous voyez, toujours, c'est toujours zéro. Donc on n'a pas de champ magnétique dans cette pièce. Donc comme je suis dans cette pièce-là, on a mesuré la Terre, on a mesuré le champ électrique basse fréquence et le champ magnétique basse fréquence. On va mesurer maintenant le champ électromagnétique haute fréquence, qui s'exprime pareil en volts par mètre ou au microwatt au mètre carré.
D'accord.
Donc là, on utilise un appareil, celui-là c'est un acoustimètre, où on retrouve les deux valeurs, hein, les volts par mètre ou microwatt au mètre carré. Donc on l'allume, normalement s'il y a des ondes... On va l'entendre. Bon, déjà, chez vous, vous avez 0,02. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas du tout d'onde électromagnétique dans l'habitat. Vous avez le Wi-Fi coupé, on n'a pas de téléphone portable à proximité. On n'a pas de téléphone DOCT parce que vous êtes bien passé en téléphone filaire.
Mm-hmm.
C'est ce que je conseille, hein, parce que le téléphone DOCT, le téléphone sans fil dans l'habitat est très mauvais parce que... En moyenne, on a entre 1900 et 2000 gigahertz de propagé par un téléphone DOCT. C'est presque l'équivalent du 3G, presque, parce que le 3G, on a 2200. Il faut savoir que maintenant, il y a le 4G, on a 2600, la LTE.
Donc vous préconisez 2600. Vraiment de reprendre des téléphones à l'ancienne avec un fil.
Voilà, tout à fait. Même si c'est contraignant, parce qu'on est obligé de rester à proximité du téléphone... Ou alors d'utiliser des téléphones portables, mais bon, que je déconseille quand même, hein, mais le plus possible les éloigner de nous, d'utiliser des oreillettes anti-ondes ou des pochettes anti-ondes qui permettent de se protéger au niveau des ondes électromagnétiques sur le cerveau.
Mais pareil, ces pochettes et ces oreillettes anti-ondes, on peut les trouver sur le site
sur la boutique
habitatbiocompatible.com.
Voilà. Donc là, on va se déplacer avec l'appareil sur... Sur le bureau, hein, on se rend compte que vous avez bien coupé votre Wi-Fi. Donc ça fonctionne très bien.
Donc ça, pareil, vous recommandez de couper les Wi-Fi.
Oui, moi je recommande de couper la Wi-Fi, de passer en câblage Ethernet. C'est-à-dire que vous reliez votre ordinateur avec un fil Ethernet, mm-hmm. entre la box et l'ordinateur. Et le seul souci qu'on a à l'heure actuelle, c'est pour les gens qui ont des tablettes. Toutes les tablettes fonctionnent en Wi-Fi.
Mm-hmm.
Bon, il est vrai qu'on trouve quelques adaptateurs tablettes Ethernet, mais pas toutes. Mm-hmm. Très peu le font. Donc, par contre, je vérifie toujours les box, même si elles sont coupées en Wi-Fi, parce qu'il y a des box qui ont toujours le Wi-Fi communautaire.
D'accord.
Donc là, il faut aller dans les paramètres de votre opérateur et couper le Wi-Fi communautaire.
Ok. Alors là, on teste.
Là, vous ne l'avez pas.
On ne l'a pas. Mmh. D'accord.
Alors après, ce que je fais, une dernière mesure aussi en haute fréquence avec un autre appareil, qui est en gigahertz solution, toujours pareil, mais qui, lui, a un filtre. Et qui me permet de mesurer tout ce qui vient aussi de l'extérieur avec une antenne isotropique et voir si j'ai pas de la TNT, si j'ai pas des radars de l'armée, si j'ai pas le D'accord. Wi-Fi des voisins. Donc lui, il va me le détecter. Donc là, vous entendez, on entend la radio.
Oui.
Donc ça veut dire que je capte des ondes hertziennes de radio. Donc ça veut dire qu'il y a un émetteur qui doit être à proximité. Bon, qui est très, très, très léger, hein. Ça ne peut pas vous perturber au niveau de votre lieu, mais bon, elles sont présentes quand même. Donc après, moi, ce que je cherche surtout, c'est si on n'a pas, on détecte pas une antenne relais, qu'on ne pourrait pas voir,
D'accord.
qui serait...
Donc les antennes relais, ce sont les antennes pour les téléphones portables, voilà. Notamment.
Il y a une solution pour voir si vous en avez à proximité de chez vous. Vous allez sur le site cartoradio.fr, vous rentrez l'adresse de votre habitation, et quand vous cliquez dessus, il y aura le point rouge de votre adresse et toutes les antennes autour.
D'accord.
Et après, vous pouvez cliquer sur l'antenne, ça vous dit où elle se situe, quel opérateur, c'est Orange, SFR, Bouygues, et l'émission, si c'est du 2G, du 3G, du 4G, ou de la TNT.
Et pour se prémunir des effets nocifs, il faut être à combien de distance de ces antennes relais?
Ça dépend de plein de choses, parce que si l'antenne relais elle a un répéteur en plus, c'est-à-dire ce qu'on appelle les répéteurs, c'est comme des sortes de camemberts, des ronds blancs, hein, qu'on voit avec les antennes, ça fait rebondir l'émission d'une antenne relais en face à lui sur 30 à 50 km. Donc si vous êtes dans le lobe de l'antenne, il vous sera impacté. Des fois, on a des antennes relais qu'on voit des habitations. Par contre, vous n'êtes pas dans le lobe passe à droite ou à gauche de la maison. Là, on a très peu d'ondes.
D'accord, donc ça nécessite vraiment de tester avec cet appareil que vous avez en main.
Voilà, il faut absolument faire des tests avec des appareils de mesure pour voir si vous êtes impacté. Parce que des fois, on me fait venir pour une antenne relais, mais le problème n'est pas de l'antenne relais. Le problème est dans l'habitat, sur les pollutions artificielles.
Alors là, par exemple, moi, j'habite au pied du Mont Bouquet. Sur le Mont Bouquet, il y a des antennes relais. Alors, est-ce que là, on...
Non, vous n'êtes pas dans le lobe.
D'accord.
Je ne les capte pas. Là.
D'accord.
Ouais. Je ne capte pas de Wi-Fi des voisins non plus.
D'accord.
Bon, c'est vrai que c'est une vieille demeure. Donc, il faut savoir que le Wi-Fi, plus les murs sont épais, surtout des demeures en pierre... ça rebondit, ça a du mal à passer, donc c'est une protection supplémentaire. Et il faut savoir aussi que pour toute émission de haute fréquence, tous les arbres résineux arrêtent les hautes fréquences. Donc
D'accord.
si vous avez des sapins dans votre terrain, il vaut mieux pas les couper.
D'accord.
C'est une protection naturelle.
C'est bon à savoir.
Voilà. Donc dans cette pièce, on a fait toutes les mesures, hein, champ électrique, champ magnétique, basse fréquence et électromagnétique haute fréquence. On va passer dans une autre.
Alors Pierre-Ange Alfonsi, donc on a fait le diagnostic du salon, là maintenant on descend dans la chambre et on fait la même chose, on mesure les champs électriques de la chambre et là on se rend compte que donc mon lit, il y a en fait des appliques de chaque côté avec des lampes qui sont incrustées dans le mur, donc sans doute des fils électriques qui passent dans le mur. Et en plus, une prise électrique en bas du mur le long du lit, et ce qui nous crée un champ électrique de...
On a 110 volts dans le lit, 110 volts par mètre, alors que sur un lit, on doit être égal ou inférieur à 1 volt maximum.
Donc difficile là, d'avoir un bon repos récupérateur dans ce lit.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le corps physique peut dormir, mais le cerveau, lui, se repose pas. Donc on se réveille avec sentiment de fatigue, on n'a pas l'impression d'avoir dormi 8 heures. On a une journée qui démarre
mal.
Voilà.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire là?
Donc là déjà il y avait quand même deux inversions sur les lampes de chevet.
Oui.
Comme j'expliquais tout à l'heure, il faut faire attention au sens des lampes de chevet.
En plus des deux appliques, hein. Donc il y a deux appliques sur lesquelles je peux rien faire, mais par contre il y a aussi deux lampes de chevet qui étaient mal branchées. Donc simplement en inversant, en les retournant et en les branchant dans l'autre sens dans la prise, déjà ça changeait la donne. Mais même avec ça, on a toujours 100 volts dans le lit.
Voilà. Donc la solution, ça serait par exemple de couper le disjoncteur qui correspond à la chambre au niveau du tableau électrique. Ce qui veut dire que vos lampes ne s'allument plus. Par contre, il y a une autre solution, c'est une fois qu'on a trouvé quel disjoncteur est au tableau électrique qui coupe ce circuit électrique qui ferait redescendre l'appareil à un champ électrique inférieur ou égal à 1 volt, on installe dans le tableau électrique un IAC, ça s'appelle un interrupteur automatique de champ, qui lui, s'il n'a pas de demande de courant, il coupe le courant dans les fils. Quand vous allumez votre lampe, vous voulez allumer la lampe, il détecte une différence de potentiel sur la ligne, et là, il envoie le 230 volts à la vitesse de la lumière, et votre lampe s'allume. Vous D'accord. éteignez la lampe, il coupe le courant, donc on n'a plus de champ électrique dans le lit. D'accord. Ça, c'est une solution.
Et ça, ça coûte combien ?
Ça, faut, suivant l'installation électrique, ça varie entre 150 et 200 euros. D'accord. Installé, hein, mm-hmm. posé, mm-hmm. installé.
D'accord.
Donc là, il n'y a que les électriciens qui le font, mm-hmm. parce qu'on doit intervenir sur l'installation électrique. Au niveau du tableau. Mais dans l'urgence, pour les gens qui n'ont pas les moyens de faire installer ce type de produit, il faut aller au tableau, chercher le disjoncteur qui correspond à la chambre, et on le coupe. Comme ça, comme on fait avec la Wi-Fi.
Mais du coup, on n'a plus de lumière
dans
la chambre. Vous êtes
obligé de vous réveiller avec une lampe de chevet, pas une lampe de chevet, une torche, pour pouvoir se réveiller. Pendant que j'y pense, chez vous, c'est pas le cas, mais il faut faire attention au radio-réveil, parce qu'un radio-réveil émet à peu près 160 volts par mètre. Donc si vous avez un radio-réveil à proximité de votre tête de lit, on retrouve 100 volts dans le lit aussi. Donc là, c'est pas dû à un problème de câblage, c'est dû au problème du radio-réveil. Mm-hmm. Donc il faut vraiment faire attention aux lampes de chevet et au radio-réveil, et tout le câblage qui se trouve dans les murs, dans la tête de lit. Mmh. Donc là, et après, il y a cette solution, on installe un interrupteur automatique de champ au niveau
D'accord.
du tableau électrique.
Ok. Voilà. Donc, en ce qui concerne la chambre, après, bon, il y a des radiateurs électriques.
Mais... Voilà, donc les radiateurs électriques, comme là, je vois, ils sont en veille. Je vois un voyant d'allumé. Mmh. Donc, moi, je conseille que quand on est en période d'été, printemps, où on n'utilise pas les radiateurs, de couper les disjoncteurs au tableau, qui empêche le champ électrique de se propager dans la pièce. Et en plus, comme ils sont en veille, il y a une petite consommation de courant qui est limitée. Moi, je conseille de les couper quand on ne les utilise pas.
D'accord. Bon, alors, donc moi, en ce qui concerne la chambre, j'ai quand même un problème, là, avec un haut voltage au niveau du lit. Et la seule solution pour moi, ça serait de couper au niveau du tableau électrique. Mais le tableau électrique est dans le salon, donc c'est quand même pas simple de couper ça. Par contre, effectivement, j'ai un canapé dans mon salon. Je peux envisager de dormir plutôt dans le salon si c'est plus harmonieux. Et apparemment, maintenant qu'on a enlevé la rallonge qui passait le long du canapé, là, ça va beaucoup mieux. On est à...
0,6
volts dans le canapé. Et en plus, avec une tête à l'ouest. Ouais. Et comme vous m'avez dit, finalement, c'est une fausse information qu'il faut dormir la tête au nord. Il vaut mieux dormir la tête soit à l'est, soit à l'ouest.
Voilà, les anciens et les anciens géobiologues, moi, c'est dans mes recherches, hein, dans les écoles de géobiologie, on apprend qu'il faut dormir la tête au nord. Pas toutes, mais certaines le disent. C'est une erreur. Il faut dormir la tête à l'est ou à l'ouest. Le mieux, c'est à l'est. Comme le soleil, le coucher, le lever, on se lève, on se couche. Mmh. Donc, moi, je conseille vraiment une orientation est-ouest. Mmh. Donc là, ça D'accord. serait le cas dans votre salle à manger.
Dans mon salon, canapé.
Dans le salon. Ce qu'on va faire quand même pour être sûr de l'emplacement de ce canapé, on va le vérifier en géobiologie, donc avec des baguettes de sourcier,
oui.
De façon à voir s'il n'y a pas déjà de veine d'eau.
Oui.
Et après, je vais rechercher s'il n'y a pas un croisement Hartmann.
D'accord.
Donc, on va déjà commencer par la recherche de veine d'eau. Donc là, sur le canapé, j'ai pas de veine d'eau. Donc déjà, c'est une bonne chose. Et maintenant, je vais chercher les croisements Hartmann. Alors, faut savoir que les croisements Hartmann, ils sont tous les 2 mètres dans le sens nord-sud. Et tous les... C'est un quadrillage. Et tous les 2,50 mètres dans le sens est-ouest.
D'accord.
Donc, on va chercher les deux sens pour voir si on n'a pas un croisement
okay.
sur ce lit canapé. Je commence du mur. Donc, là, j'ai une ligne Hartmann. Là, je vais la retrouver comme ça, tout le long.
D'accord.
Donc là, est-ouest, on est est-ouest, j'ai une ligne ici. Cette ligne est en dehors du lit.
Oui.
Donc déjà, c'est bon, mm-hmm. parce que si j'ai un croisement, elle ne sera pas sur le lit. Donc là, ce lit, moi, je conseille de dormir là, plus que de dormir dans la chambre. Donc mm-hmm. ça, c'est certain. Après, on va regarder le bureau en géobiologie, parce que c'est intéressant aussi de voir si vous êtes bien placé. Hein. Donc là, c'est pareil, on n'a pas de rayonnement de veine d'eau. Mm-hmm. On va chercher un croisement Hartmann. Et il y en a une ici, et il y en a une ici. Donc le croisement, on l'a là.
C'est à peu près l'endroit où je suis quand je suis à mon bureau. Un petit peu décalé.
Un petit peu décalé, mais si vous reculez un peu, oui, vous êtes presque sur le point. Mm-hmm. Donc là, il faudrait décaler le bureau. ou l'inverser. Mais là, ça ne vous aidera pas au niveau de votre travail,
Au niveau de votre bureau.
Donc juste pour expliquer aux auditeurs comment vous détectez ces croisements de réseaux, c'est avec donc des baguettes qui s'orientent vers le bas au moment où vous...
Ce que je demande. Là, vous voyez, c'est une baguette avec des baguettes de couleur, des bagues de couleur. Donc on doit lâcher le mental, on doit demander ce qu'on recherche, on lâche le mental, et après on voit si elle réagit au niveau de l'eau. Mmh. Après, on a une autre d'autres styles de baguettes, ça s'appelle les Radmaster, donc des baguettes parallèles, qui, elles, vont s'écarter ou se croiser quand on va passer... Donc là, c'est pareil, hein, je vais demander un réseau Hartmann. Donc je cherche le réseau Hartmann. Et hop.
Et là, elle s'écarte au moment où on arrive...
Voilà, vous voyez, c'est au même endroit où on avait trouvé avec les baguettes de sourcils. Mm-hmm. Bon, ici, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai regardé, il n'y a pas de réseau Curie. Il faut savoir que le réseau Curie, lui, on le retrouve entre 8 et 10 mètres. Donc, généralement, il peut être dans un endroit de la maison, mais on le retrouve rarement à deux endroits, hein, parce que les maisons ne font pas 16 ou 20 mètres de long. Hein. Mm-hmm. Donc voilà pour cette pièce en géobiologie.
you wanna be cooler. You better be better. Do you wanna be cooler? You wanna be better. You wanna take a boy when you turn the jungle. You wanna sing a hand on the cheek on the side. Hot a picture moving light, hot a picture moving style. You wanna be good, good man, man, like me dumb boy.
La puissance de la musique électro, c'était la phase avec Cushy Time. Tout à fait notre sujet, l'électro, puisqu'aujourd'hui, dans Les Enfants du Nouveau Monde, on découvre la bioélectricité et la géobiologie. Alors, on va continuer donc en géobiologie. Donc, pour rappeler, les outils de la géobiologie, ce sont les baguettes.
Hein. Voilà.
Et là, on est dans la cour, donc devant la maison.
Voilà, je vais regarder, vu qu'il y a une terrasse avec une table et des chaises. On va regarder si on n'est pas sur un point pathogène au niveau de la géobiologie du lieu. Mmh. Donc je vais faire pareil, hein, je recherche vendo ou faille. Donc j'en ai pas à ce niveau. Mmh. Maintenant je vais chercher les croisements Hartmann. J'en ai un ici, sur cette chaise-là. Donc ici, vu qu'on a la ligne là, l'autre croisement est ici. Ici, il ne faut pas mettre de table, mmh. de chaise ou de table.
Donc c'est justement là où il y a la table et les chaises.
Voilà. Donc il faudrait décaler un petit peu plus par là, l'ensemble, c'est
d'accord.
tout. Il y a juste à faire ça, et là on est plus sur le croisement Hartmann.
Ok. Bah...
Voilà pour ce lieu, sachant que si on voudrait, on pourrait aussi aller chercher pour faire un puits. Ça, c'est possible de le faire aussi.
Faire un puits.
Pour faire un forage. Pour récupérer de l'eau, les terrains aux alentours, on pourrait regarder s'il y en avait et on pourrait voir la profondeur, le débit avec le pendule en radiesthésie.
Voilà. D'accord.
C'est notre solution aussi.
Et alors le pendule en radiesthésie permet également de sentir si il peut y avoir des mémoires dans la maison.
Voilà, on peut regarder la mémoire des murs, donc c'est le cas chez vous.
Oui, c'est une maison qui date de 1779, donc de la mémoire il y en a.
Oui, la mémoire des murs, il a dû se passer des choses dans ce lieu. Donc après, je conseille de nettoyer le lieu. On a chacun des protocoles différents. Après, c'est de voir hein, la personne qu'elle ressent le mieux pour faire venir nettoyer sa maison. Soit faire appel à un géobiologue, soit il y a des personnes qui sont spécialisées dans les nettoyages. Donc on travaille avec des encens, des bougies, des prières, des rituels, donc qui permet de remonter en énergie le lieu. Voilà.
En fait, dans votre travail, vous faites le lien entre une part très rationnelle et puis une part très ésotérique.
Ouais, on a un côté ésotérique. Hein. On travaille dans le monde de l'invisible, mais qui est passionnant parce qu'on a des super résultats. Comme par exemple, travailler avec des agents immobiliers ou des constructeurs. Trouver l'emplacement de la maison, bien la placer avant sa construction. Ou aussi vérifier un lieu pour les gens électrosensibles avant un achat... où on s'engage sur plusieurs années dans cette maison, dans cet appartement.
Et oui, effectivement, c'est bien utile avant d'acheter quelque chose, être sûr que ça soit bien positionné et acheter un endroit où on ne sera pas bien. Bon, alors en tout cas, c'est bon à savoir tout ça, de pouvoir repérer les croisements des réseaux Hartmann et autres pour savoir où positionner nos meubles, où positionner une table, un bureau, vérifier si notre lit est bien placé, etc. C'est quand même une très très belle découverte pour moi tout ça. Merci beaucoup Pierre-Ange Alfonsi. Du coup, vous pouvez aussi, donc comme vous l'avez dit, détecter diverses entités qui peuvent être dans la maison, etc. Ensuite, conseiller des personnes pour faire du nettoyage ou même l'effectuer vous-même.
Oui, ouais, tout à fait. Le nettoyage, j'en fais un petit peu. Après, quand c'est vraiment très, très chargé, je conseille vraiment de faire appel à des professionnels sur ce domaine-là.
Quand on parle d'énergie dans les maisons, etc., ça peut évoquer le feng shui. Quelle place ça a dans tout ça ?
Alors, je conseille le feng shui aussi, surtout pour les gens qui travaillent à domicile, parce que ça veut dire qu'il y a aussi leur vie privée, leur société, enfin leur vie professionnelle qui en dépend. Donc travailler avec le feng shui, c'est important. Moi, je ne fais pas le feng shui, mais je conseille de aussi vérifier son habitation de façon à pouvoir avoir une vie plus sereine et aussi professionnellement réussir son entreprise. Dans l'avenir.
Vous avez remarqué sur les lieux où vous êtes intervenu une vraie différence dans la vie des gens ?
Oui, j'ai rapidement des appels sous quelques jours ou quelques semaines me disant qu'ils se sentent mieux, ils dorment mieux, ils sont plus concentrés, se sentent moins agressifs. De toute façon, une chose qui est simple à voir, hein, c'est les personnes qui ont du mal à revenir chez elles le soir ou en journée, hein, où ils font tout pour partir rapidement de chez eux, hein, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'habitat. Mm-hmm. Mais autrement, oui, il y a des très bons résultats de plus en plus, parce que moi, je vais aussi me former dans plusieurs domaines qui me permettent de ne pas passer à côté de quelque chose que j'aurais pas vu, comme maintenant aussi la qualité de l'air dans l'habitat. Ça, c'est important, hein, pour les gens qui ont des enfants qui sont asthmatiques mm-hmm. ou autres. Hein, ça mm-hmm. peut être intéressant de contrôler aussi.
Tout à fait. Alors vous proposez donc des diagnostics et des mises en place de solutions, hein, mm-hmm. pour les lieux d'habitation, mm-hmm. et puis même un lieu avant construction. Hein, vous parliez oui. des terrains, etc.
Voilà, les terrains aussi. Ouais.
Si on reste sur une habitation, vous me disiez tout à l'heure qu'en gros, c'est à peu près 4 heures. Hein, un vrai diagnostic complet, là, on l'a fait rapidement oui. chez moi, mais pour faire quelque chose de complet...
Il faut compter la demi-journée sur une maison qui va maximum jusqu'à 120 mètres carrés. Donc tout dépend le lieu, la superficie, de tout ce qui est à contrôler.
Et après, vous rédigez un rapport donc très détaillé avec des propositions de solutions.
Oui, un rapport détaillé avec les mesures dans toutes les pièces qui parle de la géobiologie et des champs électromagnétiques. Mais les solutions pour s'en protéger, s'il y a besoin de faire des travaux, comme l'entreprise est basée sur la bioélectricité, on peut aussi intervenir pour les travaux à faire dans l'habitat. Tout style de travaux qui sont en correspondance avec l'électricité.
Mmh. Il faut compter un budget de combien à peu près pour...
Budget, ça varie de... Tout dépend. Si on prend le diagnostic complet, c'est entre 300 et 400 euros, plus le déplacement.
Mmh.
Puis après, il y a des personnes qui prennent que la géobiologie, il y en a qui prennent que les mesures de champs électromagnétiques.
Mmh.
Une mesure de juste pour un terrain, c'est pas le même coût. Hein. Là, ça varie entre, sans déplacement, entre 50 et 150 euros. Où là, on vérifie le terrain, le champ électromagnétique, plus la géobiologie. Donc voilà, après, ça dépend de...
En ce qui concerne le déplacement, donc votre entreprise est basée en région PACA. Vous vous déplacez sur quelle zone ?
Alors moi, je fais de Monaco à Perpignan, toute la côte, y compris les départements limitrophes, hein, le 04, le 05, le 07, le 84, mais même beaucoup plus loin. La semaine prochaine, je vais sur Bordeaux, j'ai fait Paris.
D'accord.
Donc c'est vraiment à la demande. Mm-hmm. Si les personnes sont prêtes à payer le déplacement, mm-hmm. après, le coût du diagnostic est le même.
D'accord.
Il y a juste le déplacement à rajouter...
Et alors, pour les gens qui n'auraient pas forcément ces budgets, mais qui aimeraient travailler un peu sur leur habitat et puis l'améliorer, qu'est-ce que vous conseillez ? Qu'est-ce qu'on peut faire individuellement sans avoir de grandes connaissances pour améliorer les choses ?
Bah déjà, on peut trouver sur Internet des petits appareils de mesure. Hein,
comme vous l'avez montré tout à l'heure, le petit stylo à 15 euros.
Le petit stylo, déjà, si déjà on change l'essence de lampe. Ça permet aussi, avec ce petit stylo, de contrôler si on n'a pas un champ électrique sur le lit. Hein. S'il s'allume, ça veut dire qu'on a un champ électrique. Après, on a aussi des petits appareils avec un budget de 100 à 150 euros hein, qui mesurent avec une valeur les champs électriques et les champs magnétiques. Si vraiment on veut faire ça soi-même, après, il faut faire attention parce que de les voir, des fois, ça peut faire peur, sachant qu'on ne connaît pas les solutions.
Mmh,
donc, il ne faut pas rentrer aussi dans la peur de ce qu'on va mesurer.
Et après, des petits conseils très simples, par exemple, comment disposer donc, un lit, on l'a vu, c'est plutôt peut-être à l'est ou à l'ouest. Est-ce
ouais.
qu'il y a d'autres orientations comme ça qui sont bonnes à retenir, peut-être pour positionner un bureau par rapport à une fenêtre ou des choses comme ça?
Les bureaux, le plus important, c'est si vous prenez un bureau en bois, c'est de pas que le câblage touche le bois le moins possible, parce qu'il y a un rayonnement électrique qui se fait, parce que le bois est propagateur de champs électriques.
Hein. Mm-hmm. Et sinon, plutôt un bureau en quelle matière alors ?
En verre.
Ah,
le verre d'accord. n'est pas conducteur de champs électriques. Pas métallique, parce mm-hmm. que métallique, ou alors il faudrait relier tout le bureau à la terre.
Mm-hmm.
Bon, vous, dans votre cas, c'est pas possible, vous n'avez pas de terre. Donc c'est d'où l'importance de vérifier la terre au départ.
Ça peut être une première mesure vraiment indispensable que les gens vérifient qu'ils ont bien une prise terre dans leur logement.
Voilà, là ils font venir n'importe quel électricien qui leur demande d'intervenir pour faire une mesure de résistance de terre. Déjà ils vont savoir s'ils ont une terre ou pas de terre mmh. et la valeur de la terre.
Mmh.
C'est pas l'électricien doit donner la valeur de la terre, c'est pas mmh. dire oui vous avez une terre, parce que mmh. ça vaut rien. Hein.
D'accord.
C'est vraiment de donner la valeur.
La valeur. La
mmh. Et si elle est inférieure ou égale à 30 ohms, c'est très très bien et là on va pouvoir évacuer tous les champs électriques.
D'accord. très bien. Voilà. Ouais, comme vous m'expliquiez tout à l'heure, sur une prise de courant, on voit la petite pointe métallique qui sort, c'est la borne de terre.
Voilà.
Et il faut que celle-ci soit reliée véritablement à une connexion dans la terre pour que tous les champs magnétiques s'évacuent de l'habitat.
Voilà.
D'accord. Donc, rappelez que, évidemment, le téléphone sans fil, c'est mauvais, qu'il vaut mieux retourner à un téléphone filaire.
Voilà.
Quoi d'autre comme petit conseil au niveau du...
Ah si, moi je déconseille, beaucoup de personnes utilisent le CPL, le courant porteur en ligne. C'est-à-dire que votre box, elle est dans le bureau, et vous voulez, par exemple, la télé dans le salon. Donc, ils vendent des box TV. Mais entre les deux, la liaison, ils la font avec un petit boîtier qui se branche sur la box du bureau, qui, sur une prise de courant, et vous remettez un deuxième boîtier derrière la télé, sur la prise de courant qui est derrière la télé. Ça permet de véhiculer le Internet via le réseau électrique, ce qu'on appelle du CPL, le courant porteur en ligne. D'ailleurs, avec le problème des compteurs Linky, c'est la même chose, ils utilisent le CPL. Donc ça, pour les gens qui ont du CPL, je conseille de le supprimer et de passer en câblage Ethernet. C'est-à-dire qu'il faut passer un câble entre la box Internet et la box télé.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Bon, bah, ça fait tout un tas de bons petits conseils à pouvoir mettre en œuvre assez facilement.
Oui.
Et puis, donc, rappeler aussi l'existence de ces peintures anti-ondes, hein,
oui.
Qui peuvent tout simplement être appliquées sur un mur et permettre de neutraliser les ondes nocives.
Voilà, il y a les peintures anti-ondes qui font de la basse et la haute fréquence, c'est-à-dire que ça vous protège des câblages qui sont dans le mur, mais ça protège, une fois que vous l'avez mis sur le mur, de toutes les hautes fréquences qui viennent de l'extérieur, ou le Wi-Fi de vos voisins, ils ne passeront plus dans le mur, ils vont être évacués. Alors, tout ça à condition d'avoir une terre, parce que cette peinture, on l'a reliée à la terre.
D'accord.
C'est une peinture graphite avec de la fibre d'argent, et cette fibre d'argent, on l'a reliée à la terre.
D'accord.
Et il existe depuis 2015 de la tapisserie anti-ondes aussi, ou les voilages, des voilages anti-ondes, sur les murs ou sur les fenêtres, parce qu'il faut penser que l'onde peut passer aussi par la fenêtre,
bien sûr.
Donc on met un voilage sur les fenêtres.
Très bien. Et puis, donc, en ce qui concerne les téléphones portables, vous recommandez donc des pochettes dans lesquelles glisser le téléphone portable, c'est des pochettes anti-ondes aussi.
Oui.
Et puis, le port d'oreillettes anti-ondes pour téléphoner.
Voilà, les oreillettes anti-ondes qui sont comme les stéthoscopes des médecins, qui sont avec un vide d'air. Il faut savoir que l'onde ne passe pas dans un vide d'air, donc elle ne monte pas les ondes au niveau de votre cerveau.
Voilà. Faut compter combien comme budget pour ces oreillettes ?
Les oreillettes sont entre 43-45 euros de souvenir. Et la pochette, elle est dans les mêmes prix, 40-45 euros.
D'accord. Donc tout ça, on peut le retrouver donc, sur votre site internet, c'est www.habitatbiocompatible.com.
Oui.
Bah, merci beaucoup hein, pour toutes ces découvertes, et puis en espérant que la conscience de tout ça se développe, puisque c'est quand même une pollution généralisée dont on a peu conscience en fait. Hein.
Oui, et surtout que c'est pas visible, hein, donc on n'en prend pas conscience. Ou alors j'ai souvent le cas de personnes qui me disent « oui, mais il y a des ondes, il y en a partout ». Oui, je dis « oui, vous avez raison, il y en a partout ». Par contre, il faut déjà se protéger chez soi, surtout la chambre à coucher, pour pouvoir au moins se recharger, se reconnecter, hein, parce que si on est constamment entouré d'ondes, on n'arrive plus à se reposer. Quoi. Parce que le cerveau a besoin de descendre en fréquence, en moyenne c'est entre 3 et 7 Hz pour le cerveau, pour pouvoir avoir un sommeil réparateur. Et si vous avez du Wi-Fi, il va capter 2450 MHz, et il va se mettre à la fréquence du Wi-Fi. Vous, votre corps physique va dormir, mais votre cerveau ne sera pas reposé. Donc vous aurez le sentiment d'être fatigué au réveil.
Et rappelez aussi qu'on déconseille le radio-réveil.
Oui, le radio-réveil est déconseillé. On a des champs électriques de 160 volts par mètre, en moyenne.
Donc, le téléphone portable comme réveil, sauf qu'on l'éteint. Et
on le met en mode avion.
Voilà.
Bon, moi, je conseille de le mettre quand même le plus loin possible de la table de chevet, parce que même en mode avion, il émet toujours un peu d'ondes. Donc après, c'est d'utiliser un réveil à pile. Donc là, c'est le mieux. Puis pour les gens qui ont peur, faut prendre deux réveils à pile.
Très bien. Bon, avec tout ça, en tout cas, on sera bien réveillés.
Voilà.
Merci beaucoup, Pierre-Ange Alfonsi. Bonne continuation.
My gang will get you.
Retrouvez les enfants du Nouveau Monde sur Radio 16 le lundi de 18h30 à 19h30 et le jeudi de 8h à 9h. Toutes les émissions sont également accessibles sur le www.radio16.net.